Bien, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans Ésaïe chapitre 24. Et je voudrais vous parler aujourd'hui du jugement de l'Éternel. Le jugement de l'Éternel. Depuis plusieurs fois, nous sommes en train de traverser ces chapitres où Dieu prononce à travers Ésaïe ses jugements contre les nations. Et aujourd'hui, nous avons dans le chapitre 24 un résumé des jugements de l'Éternel, dans Ésaïe 24, donc le titre, le jugement de l'Éternel. Le contenu de ce chapitre, du verset 1 à 23, est beaucoup plus que ce que nous pouvons considérer aujourd'hui, mais si je devais diviser ces versets en parties, dans les versets 1 à 12 que nous allons considérer aujourd'hui, Dieu, à travers Ésaïe, décrit la désolation du pays. Non seulement du pays d'Israël, contre qui il allait emmener des nations pour punir et juger ce pays à cause de son idolâtrie, mais toutes les nations tout autour. Ça nous montre que Dieu est souverain sur les nations et qu'il exerce sa volonté où il veut, quand il veut, envers qui il veut. Donc, c'est la première division dans les versets 1 à 12. La désolation du pays. Comment Juda, rappelons-nous que lorsque Ésaïe a annoncé, il y avait deux prophéties. Premièrement, pour les 10 tribus du Nord qui se sont révoltées et que les Assyriens allaient emmener en captivité. Et cela s'est passé. Mais 150 ans plus tard, c'était annoncé que Babylone devait être suscitée pour venir contre la tribu qui restait, Juda et Benjamin, et que Jérusalem devait être complètement détruite. Mais dans les versets 13 à 15, donc c'est ce qui est décrit dans les 12 premiers versets, versets 13 à 15, nous voyons encore la miséricorde de Dieu, que ce n'est pas tous qui seraient condamnés ou détruits, parce qu'il y avait déjà cette promesse que Dieu avait faite à David, que de sa postérité, il a suscité une postérité, c'est-à-dire Christ, qui allait s'asseoir sur le trône de David. Et nous savons que cela s'est accompli lorsque Christ est venu la première fois. Il a donné sa vie et il est mort et il a été enseveli, il est ressuscité et monté au ciel où il est assis aujourd'hui et il règne. Donc tout ce qui concerne cette prophétie de la promesse à David s'est réalisé dans le premier siècle lorsque Christ est venu la première fois. Donc pour ça, pour cette raison, c'était nécessaire que Dieu préserve un reste. Nous sommes en train de voir ça tout le long de ces chapitres que nous étudions. Bien vrai, il y a le jugement de Dieu, la condamnation de la plupart, mais un reste selon l'élection de la grâce de Dieu. Et nous voyons un exemple de cela dans les versets 13 à 15. Et puis, dans les versets 16 à 23, c'est là que nous voyons la promesse de restaurer Jérusalem encore après la destruction aux mains de Babylone. 70 ans sont passés où il y avait une postérité qui était amenée en captivité en Babylone, et puis est venu le décret par Cyrus, le roi des Mèdes et des Perses, que ceux qui sont restés devaient retourner à Jérusalem et rebâtir le temple. Et c'est ce temple et cette ville qui existait au temps de Christ, lorsqu'il est venu au premier siècle. Donc, dans les versets 16 à 23, nous voyons comment Dieu avance son royaume par ses jugements. Ces jugements ne sont pas pêle-mêle, mais ces jugements ont un but, et Dieu accomplit toujours son but. Comme je disais, il y a beaucoup plus ici dans le contenu que nous pouvons regarder dans le temps que nous avons, donc nous allons concentrer dans ce message sur les versets 1 à 12, la désolation du pays qui est annoncée ici par Isaïe. Donc, je lis dans le verset 1, « Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante. » Pas de distinction en ce qui concerne le jugement de Dieu, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Soulignez bien cette phrase. Pourquoi ces choses arrivent? C'est l'Éternel qui l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Notons bien ces mots. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. Voilà le pourquoi. Ce n'est pas seulement que Dieu juge, mais il donne ici la raison et il se justifie dans ses jugements, sévère qu'il soit. Parce qu'il y a beaucoup qui regardent ça pour dire, mais ça c'est quel Dieu ça, qui peut traiter les habitants de cette manière? Mais lisons ce que dit Dieu lui-même le juge, il dit, verset 5, « Le pays était profané par ses habitants ». Car il transgressait les lois, violait les ordonnances, il rompait l'alliance éternelle. Quand ça parle de l'alliance éternelle, il parle de cette alliance que Dieu a établie, par laquelle il allait faire venir une postérité de ce peuple. Encore, la postérité étant Christ, et le peuple a négligé la signification ou bien l'importance du fait que Dieu les avait séparés d'autres nations dans cette alliance qui avait en vue Christ. Et se sont donné une certaine gloire pour dire, ah oui, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes des Juifs, qu'est-ce qui peut nous arriver? Et même en se fiant du temple qui existait pour dire que non, tous ces prononcements de jugement ne peuvent pas nous arriver parce qu'au moins nous avons le temple. Et donc Dieu leur dit ici qu'ils ont violé les ordonnances. Quelles ordonnances? Ce qui concerne les sacrifices et les sacrificateurs et la signification, comment ces choses étaient une image de Christ. Donc, rompant l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. Nous ne devons pas aller loin pour savoir pourquoi Dieu condamne les pécheurs à l'enfer et une séparation éternelle de lui. C'est parce qu'il est saint, mais aussi ce n'est pas que ceux qui sont condamnés sont des gens qui se sont de temps en temps, ils se sont égarés. Non. Ici, Dieu les appelle des criminels. Les gens n'aiment pas qu'on leur adresse de cette manière, disant non seulement qu'ils sont pécheurs, mais des criminels. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Ça, c'est déjà une grâce de savoir qu'il en reste un petit nombre. Quand nous contemplons aujourd'hui combien de nous dans ce monde qui adore Dieu selon ce qui est écrit, selon la vérité, par Christ seul. Et nous pouvons dire, mais nous sommes un petit nombre. Mais Dieu merci pour ce petit nombre. Nous ne devons pas nous comparer avec le monde parce que Christ lui-même a dit que large est le chemin qui mène à la destruction. Mais étroite est la voie qui mène à la vie éternelle. Dieu merci d'être sur cette voie par sa grâce. Alors, verset 7, le mou est triste, la vigne est flétrie, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent, la joie des tambourins a cessé, la gâtée bruyante a pris fin, la joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs fortes sont emmenées aux buveurs. La ville déserte est en ruine, toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque, toute réjouissance a disparu, l'allégresse est bannie du pays. Donc le verset 12 avec lequel nous allons nous arrêter. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. Quelle description alors du jugement de Dieu contre le pays de Juda et contre la ville de Jérusalem et surtout contre le temple que Dieu allait détruire. Et lorsque nous regardons en arrière et nous voyons comment l'histoire déclare l'accomplissement de ces choses, nous pouvons exclamer que Dieu effectivement est souverain et que ses jugements sont accomplis exactement comme il l'a décrété. Alors, nous voyons ici que tous ceux dont les trésors et le bonheur était amassé sur la terre, était maintenant amené au besoin et à la misère. D'un côté, je dirais ça, c'est une grâce pour ceux qui ont pu être épargnés et qui ont vécu pendant ce temps, de voir que, oui, Dieu, dans ses jugements, avait complètement détruit tout autour, mais les voilà. Les objets de la grâce de Dieu que Dieu a épargné. Mais lorsque Dieu œuvre en ce qui concerne le salut des pécheurs, il faut savoir qu'il amène ces pécheurs-là dans ce même état de besoin et de misère. Dans le mot misère, vous avez, ou bien dans le mot miséricorde, vous avez le mot misère. Dieu est miséricordieux envers les misérables. Alors, il est bon, donc, de s'appliquer ce que l'Écriture dit, surtout de la vanité et de la vexation d'esprit qui accompagne toute chose ici-bas. C'est ce que Salomon lui-même a exclamé dans son livre, dans le livre d'Ecclésiaste, « Vanité de vanité, tout est vanité ». C'est quelque chose qu'il a dû vivre lui-même, de savoir que même s'il avait toutes les richesses de ce monde, et tout le trésor et le bonheur, cela n'était rien en comparaison avec ce que Dieu donne dans sa grâce. Et c'est pour nous montrer aussi que le péché a bouleversé la terre lorsque Adam a chuté. Cela n'a pas simplement affecté Adam, mais a affecté toute sa race, mais il faut dire aussi le monde entier. Ce monde entier gémit maintenant sous l'effet du jugement que Dieu a a porté sur Adam et sa race. Si vous regardez avec moi dans Romains chapitre 8, vous allez voir comment l'apôtre Paul décrit le gémissement de ce monde. Il dit dans le verset 22 de Romains 8, « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, notons, soupire et souffre des douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui vivons dans ce monde, qui avons les prémices de l'esprit, c'est-à-dire nous sommes les objets de la grâce par l'Esprit de Dieu ayant révélé Christ en nous, mais nous aussi, dans cette chair, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant quoi? L'adoption et la rédemption de notre corps. Cela veut dire à la fin des temps, lorsque ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités pour être pour toujours avec lui, et ceux qui sont encore en vie à ce temps-là seront enlevés de ce monde, et puis le monde complètement détruit. Tout ce que nous sommes en train de lire ici de cette dévastation où Dieu, dans ses jugements, a rendu un pays fertile au désert et a bouleversé, comme il dit dans le verset 1 d'Ésaïe 24, il a bouleversé la face et a dispersé les habitants. Ça, c'est seulement une petite image de ce qui sera à la fin lorsque, finalement, Dieu détruit le monde entier. Mais ça nous montre jusqu'à quel point le péché a bouleversé ce monde. Non seulement le monde extérieur, mais nous savons nous-mêmes, vivant dans cette chair, combien ce péché nous pèse. Et si ce n'était la grâce de Dieu qui nous délivre à cause du Christ et à cause de sa mort à la croix, nous serions tous comme Sodome et Gomorre. Ça, c'est ce que nous avons vu dans le premier chapitre, même d'Ésaïe. Je sais que ce sont des thèmes qui se répètent, mais c'est nécessaire, parce que quand tout va bien, nous regardons tout autour de nous et tout semble être paisible et calme, nous avons la tendance de penser que, oui, ça doit continuer comme ça pour toujours. Non. Ce monde est déjà rendu au jugement. Et ce corps dans lequel nous vivons aussi doit subir la mort physique, même si ce n'est pas spirituel ou éternel à cause de la mort de Christ. Néanmoins, nous allons tous mourir. Notre jour arrive. Donc, nous ne devons jamais nous fier à cette chair, ni au bien de ce monde, parce que la terre est devenue tout à fait différente depuis la chute et le jardin dans lequel Dieu avait placé Adam. Maintenant, c'est le contraire. Tout est bouleversé. Et cela selon l'ordre de Dieu. Alors, c'est tout au plus comme une fleur qui se fend entre les mains de ceux qui s'en plaisantent et la déposent dans leur sein. On peut prendre une belle fleur aujourd'hui et poser ça auprès de nous pour dire, oh, quelle belle fleur. Mais nous savons qu'avec peu de temps, cette fleur doit mourir. Et le monde est comme ça, dans lequel nous vivons. C'est un monde de déception. C'est pourquoi Dieu doit nous garder pour ne pas que nous pensions qu'il y a quelque bien dans ce monde, ou même penser qu'il y a quelque bien dans cette chair. C'est une déception. Et en fait, en réalité, au lieu d'être une montagne belle, c'est une vallée de larmes. Et même nos enfants qui sont nés dans ce monde, peut-être au départ, on regarde ces enfants en imaginant que ces enfants sont innocents, mais il n'y a pas d'innocents. La Bible dit que même les enfants sortent du sein de leur mère menteurs. Et nous savons cela est vrai depuis la conception. Donc, nous savons que Et en effet, nous sommes dans la joie quand le Seigneur nous donne des enfants ou petits-enfants. Mais il faut savoir que ces enfants viennent dans ce monde et en comparaison avec l'éternité vont vivre peu de jours, mais plein d'ennuis. Et si nous regardons à nos vies, c'est tout ce que nous pouvons dire de nos vies. Ce n'est pas que nous devons toujours marcher la tête baissée pour dire « Oh, malheur à moi, malheur à moi ». Il faut que nous nous réjouissons de la vie que Dieu nous donne, mais seulement on n'y met pas confiance dans cette vie, parce que c'est pour peu de temps. Et quelle malédiction! Les gens s'amusent quand ils parlent des jugements de Dieu ou bien de ces malédictions. Nous voyons ici avec quelle puissance Dieu agit dans la malédiction pour prendre dans cette terre un pays ou une population même pour complètement disperser, renverser le peuple. Et comme nous avons lu dans le verset 2, il s'agit du sacrificateur comme du peuple. Il y en a qui imaginent que le sacrificateur est au-dessus du peuple, donc ne peut pas être maudit de Dieu. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de sacrificateurs, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, qui non seulement ils sont maudits de Dieu, mais ceux qui les suivent sont sous la malédiction. Mais les gens ont des regards sur eux, parce qu'ils ne savent pas le Christ. Et ainsi, Dieu les renverse. Ce qui est décrit ici, il rend tout vide et dévaste tous les rangs et toutes les conditions, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, que ce soit le prêteur comme de l'emprunteur. Les gens avaient leur affaire et ils allaient tous les jours à régler les affaires du créancier comme le débiteur. Mais je dois dire que le jour que Dieu amène le jugement, c'est le créditeur qui fuit comme le débiteur, c'est le prêteur qui fuit comme l'emprunteur. Le jugement atteint tous, quel que soit le rang. Pourquoi? Parce que le péché a pollué tous les hommes. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de juste devant Dieu. Pas un seul. Et donc, Dieu manifeste sa puissance dans ses jugements. Quelle que soit la joie charnelle que les gens cherchent, cela touche sa fin. Et la fin est la lourdeur. Cela veut dire que quand Dieu amène ses jugements, qui peut supporter cela? Il n'y a pas un bien, il n'y a pas un bonheur que les pécheurs traversent, que lorsque Dieu amène ses jugements, que cela peut les supporter dans ces jours de jugement. C'est seulement ceux qui sont les objets de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, pour qui Christ est venu et qui a porté lui-même leur charge. Ça, c'est la substitution. C'est que Christ a porté leur charge. Autrement, nous serions tous comme des objets de cette malédiction de Dieu. Et Dieu a bien des manières pour exercer ses jugements. Et si vous voulez d'imbiber du vin amer et des boissons fortes à ceux qui les aiment, c'est-à-dire ceux qui cherchent et poursuivent devient en fin de compte leur jugement. C'est pourquoi ici Dieu parle de cela dans le verset 9. On ne boit plus de vin en chantant. Et les liqueurs fortes sont quoi? Amères aux buveurs. Il n'y a même pas un vin que quelqu'un peut prendre. Souvent les gens boivent le vin parce que ils veulent en quelque sorte se soulager face à leurs problèmes de vie. Mais rien de cela ne peut les aider au jour du jugement. de Dieu lui-même. C'est le contraire, comme c'est écrit ici. Même ces liqueurs dans lesquelles ils se sont confiés sont maintenant amers aux buveurs. Et la ville déserte est en ruine. Quelle image que nous voyons ici, quelle angoisse de l'esprit et la ruine qui domine lorsque Dieu exerce ses jugements. Oh, que nous puissions apprendre à nous lamenter du péché et de notre état de péché et de nous réjouir en Christ qui seul est la véritable éternelle joie des pécheurs qu'il sauve. Alors, personne ne peut échapper à ce jugement. Donc, ça c'est le premier point que nous sommes en train de voir ici, cette scène, cette image du jugement de Dieu. Et dans les versets 1 à 3 que nous avons lu, la portée de ce jugement. Nous savons que c'est Dieu qui rend ce jugement, parce que les premiers versets du chapitre commencent avec « Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. L'Éternel rend la terre vide. » Donc, Isaïe, à travers cette prophétie, nous dirige à contempler cette scène du jugement de Dieu. Et tout ce que nous voyons révélé ici s'applique universellement au jugement de l'Éternel, même si cela s'est réalisé à cette époque dans le pays d'Israël, mais il nous suffit de lire cela pour savoir qui est ce Dieu devant qui nous avons affaire et que personne ne peut échapper à ce jugement. Je sais aujourd'hui que les gens ne cessent d'entendre parler d'un Dieu d'amour et qui ne veut pas la destruction de qui que ce soit. Vous allez remarquer ici que nous ne voyons même pas le mot « amour » mentionné une fois. Bien sûr, il y a un reste, donc nous voyons là, en cela, la main de Dieu dans sa grâce pour préserver un reste, mais Dieu est un Dieu saint, et tel est le Dieu que nous devons annoncer aux hommes, un Dieu qui règne, un Dieu qui est saint et qui ne peut pas regarder ailleurs en ce qui concerne le péché, que si le péché n'a pas été jugé complètement dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, alors c'est le pécheur même qui doit supporter ce péché. Mais au jour du jugement de Dieu, nous voyons que c'est expliqué qui rend la terre déserte. Et nous savons que c'est une manière de parler, parce que d'autres peuvent dire non, mais même après le jugement, il y a des choses qui poussent, et les gens retournent et commencent à planter de nouveau. Et c'est vrai, mais c'est une manière de montrer combien le jugement de Dieu est complet. Le pays, verset 3, est dévasté, livré au pillage. Quoi? Car l'Éternel l'a décrété. Il y en a qui disent que, en ce qui concerne le décret de Dieu, qu'il décrète le salut, mais non pas la condamnation. Il y en a qui raisonnent comme ça. Mais ici, nous voyons que, non, Dieu décrète non seulement le salut, mais le jugement. Tout provient de sa main. Et nous avons déjà vu alors, donc ça c'est la description du jugement, la scène du jugement, dans ces trois premiers versets. Deuxièmement, le motif du jugement, la raison du jugement. Nous avons vu ça dans les versets 4 à 6. C'est la terre qui pleure. Et pourquoi la terre pleure-t-elle? C'est lorsque Dieu exerce ses jugements sur la terre, que cela cause le tremblement des gens à cause de ces jugements. D'autres essaient de dire, mais est-ce que donc Dieu n'est pas en faute en ce qui concerne les jugements? Les gens préfèrent blâmer Dieu que de prendre eux-mêmes la blâme. Est-ce que la faute est à Dieu? Est-ce que c'est parce que Dieu est la terre qu'il a créée? Non, c'est bien écrit. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances. Voilà pourquoi Dieu juge. Ça me rappelle de ce que Paul a dit dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9 et le verset 20. Il y en a qui raisonnent pour dire, mais si Dieu est souverain, tout se passe comme il décrète, alors pourquoi blâme-t-il alors? Il n'y a pas d'argument nouveau de nos jours. Dans le verset 18, c'est écrit en Romains 9, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Voilà, c'est le jugement de Dieu qui rend. Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, verset 19, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Et voilà la réponse, verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dit ici Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance? Voilà ce que nous sommes en train de lire ici dans Ésaïe 24. Dieu, dans sa souveraineté, démontrant sa puissance et sa colère, il a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Pensons des années qui ont passé, même entre le temps qu'Ésaïe a prophétisé, cela, jusque cela s'est réalisé, c'était plus de 150 ans. Comme au temps de Noé, où Dieu avait déjà décrété détruire ce monde à travers le fleuve, mais pendant 120 ans, Noé a prêché la justice de Dieu, et l'arche représentait le salut en Christ, mais les gens ont continué avec leur affaire comme si rien n'était, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ça, c'est Dieu qui supporte avec une grande patience. Le fait qu'il ne détruit pas déjà ce monde démontre sa patience. Mais pourquoi? C'est écrit dans le verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers qui? Des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Donc c'est clair, n'est-ce pas? Il y a ceux, des vases de colère, notons, verset 22, formés pour la perdition. Les gens peuvent essayer de blâmer Dieu, mais quand Dieu les laisse à eux-mêmes, ils sont contents, vivent leur vie comme ils veulent. Mais c'est pour un temps, c'est un jugement. Oh, mieux être un de ces vases préparés d'avance pour sa gloire, pour le salut. Vase de quoi? Miséricorde. Il est miséricordieux envers les misérables. Alors c'est pourquoi, ici, dans ces versets, le motif du jugement est bien déclaré. C'est à cause de l'homme, c'est à cause de sa transgression. Et ça, ce n'est pas seulement les œuvres extérieures qu'on voit, mais la transgression qui est dans l'esprit même des gens. Et les gens préfèrent suivre leur propre voie que de suivre la vérité et ce que Dieu lui-même a annoncé. Nous savons que si Dieu n'intervient pas dans sa grâce, nous serions tous comme ceux qui sont décrits dans Romains chapitre 1. Et le verset 25. Quand je lis ce chapitre 1, je vois combien ce qui se passe aujourd'hui est à la une. C'est comme si nous lisons un journal de nos jours. C'est écrit dans... Et quand ça parle de la transgression, ici, des lois, il y a toutes sortes de lois. Il y a la loi de nature, il y a aussi la loi de la vérité révélée dans les Écritures. Aujourd'hui, nous vivons ceux qui transgressent même la loi de nature, des gens qui sont nés hommes, qui veulent se changer maintenant en femmes, et des femmes qui veulent se changer en hommes, ou bien des hommes qui veulent se joindre à d'autres hommes pour appeler ça le mariage, ou bien des femmes qui se joignent aux femmes pour appeler ça une union bénie. Tout cela, c'est déjà décrit ici dans Romains chapitre 1, par exemple, dans le verset 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est une manière de juger aussi, même s'ils sont encore en vie, néanmoins livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, un homme pour un homme, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. On pouvait continuer à lire, mais ça nous montre comment Dieu est juste dans ses jugements. Et c'est pourquoi il est droit en ce qu'il exerce dans ses jugements. Et puis, nous voyons en fin de compte maintenant cette scène du jugement que nous avons lue dans les versets 7 à 12. Quelle scène triste où tous les joyeux qui étaient joyeux dans leur vie, marchant comme s'il n'y avait pas de jugement, mais quand le Seigneur a apporté ce jugement, oh quel cri qui les soupirs qui sortent maintenant. C'est décrit dans le verset 7 de Ésaïe 24. Le mou est triste, la vigne est flétrie, et tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Oh, mieux vaut si Dieu fasse de nous une œuvre de grâce pour que nous soupirons après lui et après son Fils et la grâce qui est en lui, que d'être laissé à nous-mêmes pour finalement être détruit par nos propres péchés dans le jugement de Dieu. J'entends ce que les gens disent. Ils disent, non, mais on doit prêcher le libre arbitre. Il faut que Dieu laisse les hommes prendre la décision et décider pour eux-mêmes. Si vous avez dans votre main une balle et vous laissez tomber la balle, est-ce que la balle va rester là ou bien ça va chuter. Si vous prenez l'homme et vous enlevez la main de Dieu de lui pour dire, bon, faites votre choix, il n'y a qu'un choix que l'homme va faire et ça serait toujours pour sa destruction. C'est pourquoi nous ne voulons pas le libre arbitre, il n'y en a pas. La volonté de l'homme est souillée du péché, dépravée. Et laissé à lui-même, l'homme va toujours agir contre Dieu et contre sa gloire. La race d'Adam, depuis sa chute, est une race polluée. Et ça pollue aussi la terre. Et on peut dire que le chaos est en effet le résultat. Nous ne devons pas être surpris quand Dieu exerce ses jugements. Ce qui doit nous surprendre, c'est plutôt le fait qu'il exerce sa grâce. Et c'est ce que je voudrais voir la prochaine fois avec vous, surtout dans les versets 14 à 16, où Dieu intervient dans sa grâce et sa gloire, malgré l'état des pécheurs. Et heureusement, c'est le message que nous avons à annoncer. Dieu est un Dieu saint, mais il est aussi un Dieu de grâce, et il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à ceux pour qui Christ est venu porter leur péché. Mais nous allons voir le reste de ce chapitre la prochaine fois, Dieu voulant. Que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons d'entendre. Amen.